Est-ce que ça enregistre?
C'est quoi ton terrain d'écriture actuel?
Il est très vaste parce que ça peut être un peu n'importe quel terrain. Là, je te parle d'un point de vue même géographique.
C'est des projets, je pense, hybrides. C'est une sorte d'ethnographie que j'ai
fait. Ça m'a permis de prendre beaucoup de liberté par rapport aux formes littéraires que je connaissais.
Je ris aussi de l'autorité, du savoir.
Aujourd'hui, je vous présente ma discussion avec Vincent Brault. Vincent Brault est un auteur qui a publié 3 livres aux éditions Héliotrope, Le cadavre de Kowalski en 2015, La chair de Clémentine en 2017 et Le fantôme de Suzuko en 2021. J'ai commencé à m'intéresser au travail littéraire de Vincent Brault à cause d'une publication Facebook qu'il a lancée il y a quelques années, dans laquelle il disait vouloir recueillir des histoires de fantômes auprès des gens. J'étais surprise de découvrir qu'il avait un projet un peu plus ethnographique parce que ses livres étaient plutôt classés du côté du fantastique. Je l'ai croisé dans un lancement de revue et il m'a expliqué qu'en fait, durant une résidence d'artiste qu'il a faite à Tokyo, il avait commencé à recueillir des histoires de fantômes et qu'il avait continué au Québec et qu'aujourd'hui, il en avait accumulé plus de 300 ici. Vous allez voir, durant notre discussion, on parle de fantômes, on parle du Japon, on parle des résidences d'écriture que Vincent a faites, on parle de la solitude de l'écriture, on parle des choses qui nous hantent, des cadavres, des animaux. La conversation commence au moment où je demande à Vincent à quoi ressemble son espace d'écriture.
Ben ça, c'est vraiment pour moi super, super important, là, dans le fond, la mécanique de l'écriture, mais vraiment de manière très pratico-pratique, pragmatique. Par rapport au temps, ben moi, j'écris surtout le matin, vraiment tout de suite après le déjeuner. Mes meilleures périodes, c'est les périodes entre 9h et 1h l'après-midi. Après grande marche, dîner, et peut-être un 2-3 heures... l'après-midi, mais pas toujours, puis parfois c'est plus difficile. Mais vraiment, l'organisation physique de mon atelier d'écriture, c'est... moi, j'ai eu beaucoup... j'ai toujours très mal au corps. Donc, rester assis longtemps, c'est assez pénible, finalement.
Okay.
Et donc, j'essaie de varier les positions d'écriture. J'ai un petit tabouret avec des coussins. Ça, c'est un peu l'idéal. C'est là où je passe le plus de temps sur mon petit tabouret. J'ai un laptop qui est surélevé sur une pile de livres. Une pile de livres, d'ailleurs, des anciens manuscrits. Et puis un gros livre de Mizuki là, sur les yokai, sur les fantômes japonais. Donc ça, c'est empilé. Et j'ai une pile de dictionnaires aussi que j'ouvre plus vraiment maintenant, mais ils sont là. Et j'ai des objets sur ma table. J'ai des roches que j'ai ramassées au Japon, au Mont Fuji. Une miniature d'un temple que j'ai visité au Japon, un temple zen.
As-tu des crayons ou du papier comme très important pour toi ou pas du tout?
Ben, il y a beaucoup de piles de papier, de notes, des manuscrits en cours... annotés ou pas. Mais bon, la plupart sont annotés, des post-it. J'ai aussi toutes sortes de crayons. c'est assez lié au Japon quand même. des crayons que j'ai rapportés du Japon qui ont quand même une espèce d'âme, j'imagine. Il y a des esprits dans tous les objets là, au Japon. Donc, je suis entouré d'objets puis un peu d'esprits. Puis j'ai aussi une espèce de babillard avec... des photos d'expos que j'ai vues au Japon, à Tokyo surtout.
Je sais que tu as fait des résidences d'écriture. Est-ce que tu écris différemment quand tu es à l'étranger? Puis, tu sais, est-ce que ça influence... Est-ce que le texte va être autre chose du fait que tu es à l'étranger? Ou est-ce que, tu sais, quand tu rentres dans ta bulle, c'est ta bulle d'écriture puis c'est toujours la même?
Ben, je suis allé écrire un mois au Banff Center en Alberta, puis à Tokyo pendant 3 mois. Puis à Banff, j'étais supposé d'écrire, de travailler sur un projet en tant que tel. À l'étranger, il me semble que je suis plus là pour faire de la recherche finalement, puis pour m'imprégner du monde, du nouveau monde là, qui m'entoure. Et aussi, faire des liens avec des personnes. Parce que, par exemple, à Banff, c'est une super grosse résidence. Il peut y avoir jusqu'à 300-350 résidents en même temps. C'est vraiment comme un petit village. C'est vraiment extraordinaire, là, cette résidence-là, avec une grande bibliothèque, 6-7 salles de concert sur le site de la résidence. C'est multidisciplinaire, là, donc... Moi, quand j'y étais, il y avait 70 musiciens, il y avait beaucoup... Ben, il y avait quelques autres écrivains-écrivaines, il y avait des traducteurs-traductrices, il y avait des chanteurs d'opéra, des danseurs. Et donc, il y a des activités un peu à tous les jours, soirs. Donc, tu as envie quand même de profiter... En tout cas, moi, j'avais envie de profiter de ce monde-là puis de la nature autour. Donc, j'ai écrit, j'ai travaillé sur... la fin, l'édition de mon deuxième livre, donc « La chaire de Clémentine ». Et j'ai entamé des recherches ou des réflexions sur un livre que j'ai en tête depuis longtemps et qui peut-être un jour sortira. Mais j'ai surtout fait ça et donc je me suis surtout imprégné plus du territoire que vraiment avoir une pratique d'écriture parce que finalement, je n'étais pas très confortable pour écrire dans le lieu de résidence où j'étais. Puis au Japon, c'est un peu la même chose. J'ai quand même beaucoup écrit au Japon. Quand je suis rentré avec presque 500 pages de notes.
Quand même.
Et donc ça, c'était assez, je pense, massif. Mais je me suis rarement assis pour écrire comme je peux le faire à Montréal. Et encore une fois, c'était pour faire de la recherche, rencontrer des gens, m'imprégner du territoire. J'ai l'impression que... On ne finance pas les résidences, on ne finance pas les écrivains ou les écrivaines pour aller en résidence pour qu'ils reviennent avec un texte fini. On finance les écrivains et les écrivains pour comme, qu'ils puissent décrocher de leur monde montréalais, qu'ils puissent aller s'inspirer, faire de la recherche à l'étranger. En tout cas, moi, c'est ça que j'ai fait, puis c'est ce qui m'a vraiment nourri plus que revenir avec... 200 bonnes pages ou 50 bonnes pages. Bon, je serais venu avec zéro bonne page, mais beaucoup de notes.
Puis est-ce que dans ton dernier livre, le narrateur est écrivain, on le voit écrire et il... C'est intéressant, il sort facilement de sa bulle d'écriture pour se plonger dans des événements. Il est vraiment... il y a comme une sorte d'aisance là, entre l'extrême solitude de l'écriture puis hop, on se retrouve avec des gens dans un souper, on boit. Est-ce que ça représente aussi ta capacité ou ta façon de faire quand t'es soit à l'étranger, soit chez toi en train d'écrire, le rapport au social?
Bien, je pense que pour moi, le rapport au social, c'est vraiment important. Puis c'est un enjeu, je ne sais pas si c'est pour tous les écrivains et écrivaines, mais en tout cas, pour moi, c'en est un, parce que c'est un sujet, c'est une occupation, un métier, une activité vraiment solitaire. Au fond, tu fais ça seul, là, écrire. J'aime pas tellement, moi, passer du temps seul. C'est-à-dire que je peux passer des journées seules, ça, j'aime assez, mais le soir, j'ai vraiment besoin, envie de voir des gens. Et donc, à Tokyo comme à Montréal, ben, à Tokyo, c'était encore plus amplifié. Mais, par exemple, dans ma pratique à Montréal, oui, j'écris le jour et le soir ou l'après-midi, bon, je vais prendre des cafés avec des amis. Ça me prend absolument comme une extériorité. Sinon, je pense que je me sens pas très bien. Ou, tu sais, je souffre de solitude, sinon. Et ça me prend une extériorité. Et à Tokyo, au fond, la vie du narrateur... qui s'appelle Vincent d'ailleurs, ressemble assez à la vie que j'avais à Tokyo, c'est-à-dire passer d'un vernissage à l'autre, faire des rencontres, traverser la ville à vélo, et en même temps être, je pense que c'est le cas pour le narrateur, mais c'était le cas aussi pour moi quand j'étais à Tokyo, être hanté à la fois par, en l'occurrence, cette Suzuko-là, cette ancienne relation, et aussi par ce projet à venir. Quand j'étais à Tokyo en 2018, je ne savais pas vraiment ce que j'allais faire à Tokyo. Je ne savais pas vraiment si finalement j'allais être capable d'écrire un livre avec cette expérience-là, parce que je n'avais pas encore vécu cette expérience-là. Donc, j'étais quand même toujours en train de rêver ou de réfléchir à ce possible livre.
C'est intéressant que tu parles tout de suite d'être hanté par là, il y a un personnage, le narrateur est tenté par un personnage, mais aussi, dans le réel, être constamment un peu obnubilé par le projet à faire. Parce que, je dis que c'est intéressant, parce que dans tes livres, il y a une obsession pour certains sujets, puis il y a une grande cohérence par rapport à... Il y a une sorte de superposition entre certains thèmes, là, la mort, la chair, les cadavres, les fantômes, tout ça se déploie de façon très cohérente. Puis en lisant tout, je me disais, c'est drôle parce que tout est là dès le départ et en même temps, tout se développe puis s'accroît. Puis j'avais envie que tu nous ramènes à ta venue à l'écriture. Comment ces thématiques-là qui s'entrecroisent d'une façon qui est très singulière dans ton travail, comment c'est arrivé? C'était quoi, avant même ton premier livre, sur quoi t'écrivais?
Je pense que le début de l'écriture, ça s'est fait vraiment à l'adolescence, un peu, ben, vraiment de la poésie, le poète maudit, la poésie des poèmes d'amour, tout ça. Sans doute que je ne suis pas le seul à avoir fait ça, mais j'étais très engagé là-dedans. Puis je pense que par la poésie, j'ai appris ou j'ai construit ou j'ai acquis cet intérêt-là pour la langue en tant que telle. Parce que j'écrivais 4-5 lignes, puis là, je les travaillais pendant des heures ou des jours. Mm-hmm. Et ça m'a, disons, poussé à cette idée-là de du texte, donc travailler le texte. Après, moi, je viens plus des arts visuels. Donc, mon grand-père, c'était un peintre. Puis on a été très influencés dans la famille par mon grand-père maternel. Et donc, depuis que je suis tout petit, j'ai toujours fait des arts visuels, de la peinture, bon, un petit peu de sculpture. Puis à la fin, dans la vingtaine, j'avais un studio là, à Montréal pour faire des arts visuels. J'exposais un peu. Et à un certain point, j'ai vu cette masse matériel, là, ces œuvres qui s'empilent juste dans le studio et aussi les coûts liés au studio puis à la production des œuvres physiques. Puis c'est là où, je pense que parallèlement à ça, j'écrivais et il y a eu comme une décision vraiment consciente de laisser les arts visuels de côté, en tout cas pour un temps, et de m'inscrire plus dans le littéraire, comme si j'avais besoin de zéro budget, là, quelque part, pour faire... je peux écrire un livre qui se passe sur la planète Mars, puis c'est pas comme un film où ça va te coûter là, 200 millions de dollars pour le produire. Là, tu peux faire tout ce que tu veux comme en littérature, plus, ou en tout cas, entre guillemets, plus, ou en tout cas différemment, ou avec moins de coûts, là, puis moins de matière, moins de matériel qu'en art visuel. Et donc, mais ça répond pas vraiment à ta question.
Non, mais c'est intéressant.
La question, je pense, de la mort, ben, elle apparaît assez tôt. Elle apparaît quand j'ai 19 ans. Ma mère, elle est décédée. Et sans m'en rendre compte, à partir de ce moment-là, je suis parti habiter en Écosse et j'ai commencé à tenir un journal. Donc, vraiment quotidiennement. Et pendant 10 ans, je pense que j'ai pas manqué une seule journée comme de l'écriture de ce journal-là. Et j'ai un projet littéraire aussi lié à ce journal-là, mais ça, c'est une autre histoire. Et donc, je pense que sans m'en rendre compte, là, j'ai commencé à écrire après la mort de ma mère, vraiment. Et encore une fois, sans m'en rendre compte, j'ai commencé à écrire des nouvelles, à publier, puis... Cette thématique-là de la mort était présente. C'était juste de ça dont je parlais, mais ça m'étonne même après coup de penser que ça a pu être inconscient, mais c'était vraiment comme inconsciemment. Mm-hmm. J'écrivais, c'était mon thème. Il fallait que les choses s'extirpent là, de mon corps, là, physiquement. Ouais. Et je pense que c'est un fil à tisser ou à tirer du cadavre de Kowalski, de la chaire de Clémentine et... du fantôme de Suzuko et sans doute mes deux prochains livres aussi et peut-être d'autres ensuite. C'est aussi quand même cette thématique-là, ben, je dis de la mort, mais de la perte au sens large.
C'est des thèmes ultra communs là, dans la littérature, la mort, la perte, mais c'est traité dans ton écriture d'une façon qui est ultra original. C'est-à-dire que dans mes notes, j'ai écrit l'obsession d'un cadavre très vivant. Mm-hmm. C'est puis évidemment là, dans ton premier livre, c'est très concret parce que c'est ça la prémisse. Puis ça donne une écriture vraiment intéressante parce que la contrainte, c'est un cadavre qui se réveille, mais qui est un cadavre. Donc toutes ces impressions sont contraintes par le fait qu'il est un cadavre, puis ça donne une sorte de vision du monde qui est vraiment fascinante.
Entrer dans le corps.
Oui.
C'était ça un peu mon...
Mais le cadavre est aussi... c'est aussi... Tu t'en sers comme espace relationnel. Donc, c'est à travers la mort que les personnages connectent le plus. Puis c'est... je pense que dans la critique, on souligne beaucoup la dimension érotique du travail d'écriture, mais c'est pas seulement ça. Il y a ça, il y a vraiment une dimension charnelle. Mais c'est même un espace... d'amitié, il y a beaucoup d'amour. Mmh. Oui, il y a quelque chose de très charnel qui va en opposition avec le fait qu'on est devant l'absence. Mmh. Mais c'est vraiment un espace de relation au sens très large qui est très étonnant, en fait.
Je pense que c'est vraiment intéressant ce que tu dis. Puis j'ai l'impression, peut-être dans mon expérience, que la mort, finalement, rapproche les vivants, les réunissent. Et c'est vrai que dans le cadavre de Kowalski, par exemple, c'est lui le point par lequel les autres personnages se rencontrent. Et que aussi dans La chair de Clémentine, c'est vraiment... les cadavres sont au cœur du récit. Et ils sont aimés, chéris par Gustave, qui est le personnage principal du livre. Et ce qui m'avait intéressé... Avec mon deuxième livre, La chair de Clémentine et Gustave, c'était ça. C'était le fait que la mort est plutôt est repoussée par la société, les individus. Évidemment, on préfère ne pas être en présence des cadavres. On les craint. Mais j'ai voulu créer un personnage qui, lui, pour une raison que je pense que peut-être on découvre dans le livre, est attiré par ces personnes-là qui sont non pas des vieux cadavres pourris, mais des cadavres des frais ou des personnes qui sont en train de mourir. Et on peut penser que c'est la pire des choses au monde. Et je pense que c'était peut-être aussi pour exorciser ces moments liés à la mort de ma mère qui sont parmi... les moments les plus forts, mais les plus dramatiques, les plus tristes que je vivrai sans doute jamais. Et créer ce personnage-là qui recherche ça, ça m'intéressait juste parce que j'avais l'impression que c'est pas des personnages qu'on voit et qui sont étonnants et qu'à travailler à partir de cet étonnement-là, qu'est-ce que ça pourrait bien produire?
Quand on est avec Gustave, là, c'est un personnage qui est très intéressant parce qu'il est attiré par les presque cadavres, les gens littéralement qui sont sur le point de devenir cadavres. Mais puis il pourrait passer du côté des fous, des gens bizarres ou des gens qu'on veut pas côtoyer. Mais il y a le personnage de Françoise qui le rend... non seulement sympathique, mais séduisant aussi parce qu'elle-même est attirée par lui. Je pense que dans le cadavre de Kowalski, il y a ça aussi. Il y a la relation entre le cadavre puis Myriam. C'est une relation qui est de l'amitié ou de l'amour. Il y a un peu des deux.
Tu parlais d'érotisme tout à l'heure. Je pense que à la fois, je sais pas, ça m'amuse, tu sais, de mettre en scène des cadavres attirants ou des personnes qui sont attirées par des cadavres. Puis en même temps, c'est comme si j'avais l'impression que peut-être la littérature qui m'intéresse ou le texte qui m'intéresse, c'est le texte qui essaie de dire les choses autrement ou d'une manière qu'on ne voit pas très souvent ou peut-être, je pense pas jamais, mais c'est-à-dire que assez rare pour travailler plus sur comme l'étonnement. Que sur travailler sur l'attente déçue plutôt que sur l'attente comblée.
Ouais.
Puis je pense que ça aussi dans Le fantôme de Suzuku, j'ai l'impression qu'il y a ça quand même, cette espèce d'attente, on pourrait dire, déçue.
Oui, si on est du côté des vivants, Tu parles d'étonnement, puis moi, c'était aussi dans mes notes sur tes livres. J'avais écrit, mon Dieu, les personnages ont l'air étonnés d'exister constamment. Puis là, je parle pas des cadavres. Évidemment, eux, on comprend qu'ils soient étonnés d'exister. Mais c'est aussi le cas des vivants. C'est le cas même du narrateur Vincent dans Le fantôme de Suzuko, qui est comme ton double, celui qui est présenté en train d'écrire le livre. Et donc, il est censé avoir toutes les informations, mais il y a un point de vue assez limité sur ce qui se passe. Puis c'est le cas de beaucoup des personnages. Perspective limitée, mais un désir très fort. Donc, une sorte de contraste comme ça. Il y a une tension narrative qui est créée par le désir des personnages. Puis tu joues beaucoup avec ces contrastes-là dans tes personnages. Puis je me demandais comment tu construisais tes personnages.
C'est une bonne question. Je pense que dans le cadre du cadavre de Kowalski, bien, j'ai eu cette idée d'un cadavre sous terre. Et j'ai imaginé qu'il se réveillait. Puis c'est souvent, j'ai une espèce de une idée de base, là, prémisse. Puis mon but, c'était d'écrire un roman qui se passerait dans le noir, dans le silence, au fond de la terre. Et à la base, je pensais pas que Kowalski allait sortir de terre. Il allait toujours rester au fond de la terre. Puis c'était un peu ça mon défi. Puis ben, finalement, il y a des choses qui arrivent. Et il réussit finalement par émerger, par sortir. Ma question de base, c'était comment est-ce qu'un cadavre qui a pas de cerveau peut s'exprimer? Et... il ne peut que s'exprimer par les sensations corporelles.
Mm-hmm.
Et donc, il y a une espèce de tension là, entre une espèce de réflexion qui n'est pas tout à fait dans le cadavre ou qui se demande où est-ce qu'elle est. Mais j'ai l'impression que les sentiments puis les affects passent par les sensations corporelles. Mm-hmm. C'est ça ça qui m'a intéressé.
Mm-hmm.
Pour Gustave, c'est un peu... C'est presque un inverse, là, un personnage qui est à l'opposé du cadavre de Kowalski, donc de Kowalski. Et encore une fois, pour le coup, j'ai eu la scène finale que je ne vais pas peut-être raconter ici. Mais c'est ça qui est apparu en premier. Puis ensuite, tout le reste a découlé. Mais j'ai décidé de la mettre à la fin du livre parce qu'il me semblait... comme plus intéressant de la mettre à la fin qu'au début du livre, mais c'est parce que c'est par là qu'on comprend, ou en tout cas qu'on réalise d'où provient cette attirance-là pour les cadavres, par exemple.
Oui, oui, oui. Mais c'est intéressant ce que tu dis sur l'opposition entre Gustave puis le cadavre de Kowalski, parce qu'on entend un peu quand même tes études en philo, là, où est l'esprit, où est le corps, où est la mort, où est l'âme, où est etc. Ce que tu dis sur la scène finale qui a déterminé le récit, l'histoire de Gustave dans la chair de Clémentine, moi, ça te rapproche aussi beaucoup du polar. C'est comme si c'est polar et récit amoureux qui s'entrecroisent. Mm-hmm. On parle souvent du fantastique ou du réalisme magique quand on parle de tes textes, mais moi, ce que je voyais, c'est là, mais c'est des histoires d'amour, c'est des thrillers psychologiques, des histoires d'amour quand même. Là.
Ben moi, ça me fait vraiment plaisir d'entendre ça, parce que pour moi, c'est des histoires d'amour là, que j'écris. Un peu comme Carson McCullers qui parlait de « Le cœur est un chasseur solitaire », puis en entrevue, l'intervieweur lui avait dit « Ah, c'est bizarre que ton livre ait connu un si grand succès parce que c'est pas une histoire d'amour ». Puis là, elle dit « Ben là, il y a juste de l'amour dans ce livre-là ». Pour moi, mes livres, c'est ça. On voit pas qu'il y a de l'amour, puis c'est juste de l'amour. Je pense que dans « Le fantôme de Suzuko », c'est clairement comme une histoire de deuil amoureux, hein, et une histoire d'amour, en tout cas les deux en même temps.
Mm-hmm.
Je sais, peut-être parce que les affects liés au deuil puis à la mort sont si forts, ça pour moi, peut-être ça les rapproche à une sorte de sentiment amoureux perdu. Si on perd, en l'occurrence, un membre de la famille qu'on aime, peut-être ça renouvelle de manière assez paradoxale cet amour-là. C'est comme si... par sa disparition, on en ressent finalement après coup l'importance. Surtout les membres de la famille, puisque les membres de la famille, sa mère, on se dit, elle va être là pour toujours, ou mm-hmm. son frère, sa sœur, ça nous est enlevé, puis là, peut-être on se dit, est-ce que je l'ai suffisamment aimé? Est-ce que j'ai suffisamment comme exprimé amour?
Est-ce que tu vois ça de la même façon, l'espèce de paradoxe ou de tension très forte, là, Eros Thanatos, dans les descriptions physiques dans les jeux charnels que tu crées dans tes textes. T'sais, c'est un peu le même... Là, on parle plus de famille, là, mais... Ouais. Il y a quand même cette espèce d'idée-là là, de désir et mort qui est étroitement tissée dans ton texte.
Ce qui m'intéresse dans les scènes de sexe, dans le fond, dans ce que j'écris, c'est aussi ben, comment écrire une scène de sexe qui soit à la fois réaliste, peut-être un peu, pas pour dire comme excitante, mais qui te...
Qui
suscite ton intérêt, puis qu'en même temps que ça soit pas un narratif entendu, vu à répétition, parce que je pense que dans l'intimité, ben les gens ont des rapports sexuels intimes et donc particuliers, et c'est essayer de recréer ces petites choses-là un peu bizarres, parce que quand c'est particulier, c'est bizarre. Puis c'est ça qui m'intéresse, de montrer un peu, d'exprimer les choses d'une manière où, tu sais, j'y réfléchis. Je me dis, dans Le fantôme de Suzuko, il y a deux scènes de sexe. Je veux dire, j'y réfléchis, je les travaille, j'essaie de les rendre comme le plus intéressantes, le plus intimes, le plus peut-être un peu aussi bizarre, parce que parfois c'est bizarre, là, juste la sexualité. J'essaie de rendre ça, puis ça m'intéresse dans la mesure où littéralement je trouve ça intéressant. Puis après, ben ça, peut-être que ça suscite, ou j'ose espérer que ça suscite quelque chose, tu sais, chez le lecteur, soit de la curiosité, de l'intérêt, de l'excitation, du malaise. Mais j'essaie pas de travailler sur le malaise. C'est pas vraiment ça qui m'intéresse.
C'est super difficile d'écrire une bonne scène avec du désir puis de la sexualité, parce que je pense que la solution facile, c'était un peu de la rendre triste ou non excitante pour qu'elle serve uniquement le récit, puis pour désamorcer la dimension potentiellement pornographique qui peut être vue comme une sorte de jeu facile, peut-être, dans l'écriture. Mais toi, c'est ça, ce qui est intéressant, c'est que tu te sors de la sexualité, ça fait avancer le texte, mais en même temps, c'est ça, tu te prives pas de créer aussi une sorte de susciter du désir tout en allant dans des zones de très bizarre, là, quand même. On est dans le très étrange, là, quand même. Là, parce que tu dis, ah, j'ai un souci de réalisme, mais dans tes deux premiers livres, là, dans Le fantôme de Suzuko, c'est autre chose. Là. Mais t'sais, souci de réalisme avec des cadavres, puis des...
Ouais, ouais. Mais mettons, avec Kowalski, c'est plus un amorce. On s'imagine que peut-être il pourrait y avoir un rapport. Il y a un rapprochement physique. Il semble y avoir une genre d'excitation, mais on ne sait pas trop.
Non, c'est donc, une tension qui flotte.
Mais avec Gustave et Françoise, ça, c'est vrai, mais là, c'était vraiment travailler sur le personnage de Gustave qui a une attirance pour les cadavres, mais aussi pour le froid en tant que tel. Et donc, c'est lié le froid à la sexualité, puis la mort pour lui. Et donc, oui, lui, je pense c'est un peu problématique. Là, en tout cas, c'est présenté comme bizarre et sans doute, en tout cas, problématique pour lui, pour Françoise, pour les témoins du récit, là, la manière dont il pourrait, comme je sais pas, consommer un rapport sexuel.
Oui, mais ça reste réaliste dans les sensations que tu décris. C'est ça qui est intéressant, peut-être. Là. Mais c'est ça. Tu as raison que Le fantôme de Suzuko, c'est différent. Puis c'est un livre... moi, j'avais hâte de t'en parler. C'est un livre que j'ai beaucoup aimé. J'ai l'impression aussi que c'est un livre qui télescope, comme je le disais au début, des choses qui sont dans les livres précédents. Je me disais, mon Dieu, il a écrit tous les livres en même temps. C'est drôle, tu sais. Je suis sûre que non, mais il y a cette impression-là. Puis t'es allé au Japon, c'est ton nom qui est le nom du narrateur. Il y a des artistes présentés dans le livre, c'est leur nom. Le livre est dédicacé à quelqu'un qui porte le même... En tout cas, on devine un prénom similaire à celui de la femme qui est présentée dans le texte. Donc, c'est un livre très différent quand même des deux livres avant ça. Ouais. Ça a été comment écrire un livre que tu décris dans le livre lui-même comme plus autobiographique et plus réaliste?
Ça a été un livre extrêmement difficile à écrire, mais vraiment. Et c'était vraiment pas le livre que je voulais écrire. dans la mesure où j'allais au Japon, j'allais faire des entrevues avec des gens qui ont vu des fantômes. J'avais envie d'écrire, mon plan, là, c'était d'écrire une espèce de Ghostbuster japonais avec plein de fantômes, un truc baroque, urbain. Bon, c'est urbain, mais en tout cas, un truc baroque très fantastique. Quand j'étais au Japon, au fond, la femme que j'appelle Suzuko dans le livre, au fond, elle devait venir me rejoindre au Japon. On était allé, j'ai changé son nom, c'est pas Suzuko, mais je vais l'appeler Suzuko ici. Et donc, mais tous les autres noms, Ayumi, Pablo Jovovic, toutes des personnes qui existent vraiment, leur vrai nom. J'aurais demandé évidemment la permission pour utiliser leur nom. Mais donc, je suis allé la première fois au Japon en 2015 avec, appelons-la Suzuko. Quand je suis retourné en 2018, devait venir me rejoindre. Mais elle n'a pas pu. Au fond, c'était ma copine, mais on s'est séparés quelques mois avant de partir. Et donc, elle devait venir me rejoindre, mais là, elle n'a pas pu venir me rejoindre. Et c'est grâce à elle que j'ai découvert les yokai et les fantômes japonais, parce que quand on est allé, j'ai dit 2015, je pense que c'était plutôt 2013. Donc, quand on est allé ensemble, elle, c'est une spécialiste du Japon, et elle m'a comme un peu fait découvrir cet imaginaire-là. Et ensuite, c'est grâce à ses conseils que j'ai pu faire une demande de bourse pour avoir la résidence à Tokyo sur une thématique. Évidemment, ça m'intéressait les fantômes, cette espèce de créature peut-être entre les vivants et les morts. J'avais l'impression que ça, c'était cohérent avec ma démarche puis que ça la déplaçait aussi un peu. Donc ça m'intéressait. Et j'ai construit ça vraiment en collaboration avec elle, ou en tout cas avec son soutien, avec son amour, tout ça. Et quand je suis retourné donc en 2018 à Tokyo, mais elle n'était pas là. Et au fond, j'étais, je pense, comme le narrateur du livre, complètement hanté par cette absence-là. Et encore une fois, comme le narrateur, c'est-à-dire que j'avais cette... la présence des absents. Si on a l'habitude d'aller au théâtre toujours avec la même personne et cette personne-là, tout à coup, n'est plus là. Moi, j'étais là, à Tokyo, à faire mes entrevues avec les gens qui me parlaient de quoi? Qui me parlaient de deuil, parce que les histoires de fantômes sont liées au deuil. Et là, toutes ces histoires-là qu'on me racontait me ramenaient à mon propre deuil, à mes propres deuils. Et là, ça renforçait cette idée-là que... du fait que le fantôme principal de l'histoire, c'était cette femme-là, Suzuko, qui n'était pas là. J'ai commencé à écrire cette espèce d'histoire baroque avec plein d'histoires de fantômes, tout ça, mais finalement, ça ne collait pas. J'étais toujours ramené à cette histoire avec le fantôme de Suzuko, puis mon expérience vraiment de manière assez pratico-pratique à Tokyo. Et plus l'écriture avançait, moins il y avait d'histoires de fantômes plus fantastiques, et plus il y avait cette histoire de ce gars-là à Tokyo, dans le milieu dans lequel moi j'évoluais, c'est-à-dire le milieu de l'art contemporain. Et c'est ça, plus j'ai avancé dans l'écriture, plus cette histoire-là, plus fantastique s'est tassée, et plus je me suis rendu à l'évidence que le livre qu'il fallait que j'écrive ou qui sortait, dont je ressentais le besoin pour peut-être m'expurger de ce fantôme-là, de cette ancienne relation-là, c'était écrire le livre, Le fantôme de Suzuko. Et je me souviens... ça a été comme extrêmement pénible, je dis ça en riant, mais c'était ultra pénible. Et moins d'un an avant la sortie du livre, j'ai rencontré mon éditrice. Elle, on s'est rencontrés dans un parc, c'était comme la COVID. Puis là, j'avais envoyé une première version du manuscrit disant textuellement, là, j'ai écrit un long courriel, j'ai dit « OK, je suis vraiment désolé, je pense que je vais abandonner le livre. Peux-tu juste le lire? » Et me dire « abandonne », parce que je ne peux plus, Puis je pense que c'est vraiment pas bon. Tu sais, je suis désespéré, j'ai pas d'énergie, je peux plus continuer. Au fond, ça me tue, là, écrire ce livre-là. Et donc, très gentil, elle lit mon manuscrit, on se rencontre au parc, puis elle me dit « T'as presque fini, c'est bon, j'adore ça. » Mais là, je la crois pas. Mais sérieusement, je la crois pas. Je me dis « Non, elle dit n'importe quoi, elle veut juste m'encourager. » Puis je me dis « Bon, dans 2 semaines, je vais voir, là, je vais laisser ça reposer. » Puis 2 semaines plus tard, j'ai comme un peu... Je vois comment ficeler la deuxième partie du livre. Et là, je l'écris en 1 mois et demi. Puis après ça, à la fin de l'été, je renvoie mon manuscrit. Ah, finalement, j'ai fini. Là. Je pense que ça va être correct. Et ça apparaît quelques mois plus tard, là, à l'hiver suivant.
Comment t'as vécu la publication? Comment tu décris... Ou comment t'as décrit pour... le monde, la relation entre le livre puis le réel, puis comment le livre a été reçu de ce point de vue-là?
Je pense que c'est un livre qui tente en tout cas de mêler la réalité et la fiction. Puis c'est une des raisons pour lesquelles le narrateur s'appelle Vincent, parce que c'est quand même un livre fantastique. Mais j'ai été très étonné de recevoir des courriels ou plutôt des messages d'inconnus qui me posent des questions sur des choses qui, pour moi, sont clairement de la fiction. Et je pense que c'est un jeu auquel j'ai joué, parce qu'à la base, le narrateur ne s'appelait pas Vincent, mais je l'ai assez tôt appelé Vincent. Et ça m'a amusé. Ça m'a vraiment amusé. Et aussi de parler du livre dans le livre. Puis cette scène sur une terrasse à Tokyo où il parle à Ayumi. Puis Ayumi lui dit « Ah, c'est quoi ton projet? » Puis lui, il lui dit « Ben, j'écris un livre, mais bon, j'ai de la difficulté, comme tu le disais, à l'écrire. » Et là, il lui demande « Mais est-ce que ça te dérange d'être dans mon livre? » Puis que peut-être cette scène-là va se retrouver dans le livre. Et ça m'amuse de faire ça. Et je pense que c'est une sorte d'effet de réel. Aussi, le fait que ça soit vraiment ancré à Tokyo, dans des rues qui existent, des commerces qui existent. Mm-hmm. La ville est, je pense, a une présence très forte qui rend ça, je pense, assez réaliste. Donc, le cadre est très réaliste.
Mais aussi, tu comprends vraiment bien Tokyo. On a vraiment l'impression que... pas juste le narrateur Vincent, mais aussi l'écrivain Vincent a une connaissance... Parce que tu parles japonais.
Le narrateur parle japonais.
Ah, c'est ça! Toi, tu parles pas japonais.
Non, moi, je parle pas japonais. Et
tu
ça...
vois, je me suis fait berner.
Non, mais à quelque part, j'adore ça, mais j'ai reçu aussi des messages en japonais.
Wow!
Parce que les gens, ils pensent que je parle japonais. Puis ça peut pas me faire plus plaisir qu'on pense... même des personnes qui parlent japonais ou des Tokyoïtes qui pensent que ben je parle japonais puis que...
Mais entre autres, moi je pensais ça à cause des j'avais noté le nom des comment ça s'appelle, les espèces d'emoji que tu fais.
Kawomoji.
Oui, c'est ça, parce que les échanges entre le narrateur puis les autres personnages par message texte sont super réaliste. Je me disais, est-ce que c'est basé sur des vrais échanges par message texte? Comment est-ce que puis tu crées des kaomoji?
Ouais.
Donc, vraiment, tu es dans la disposition de la page. Là, on a une impression d'échange par message texte.
Oui. Bien, en l'occurrence, il y a eu tous les messages textes entre Kana, qui est aussi un personnage réel, qu'elle aussi, j'ai changé son nom, Kana et Vincent, le narrateur. Toute cette scène-là autour du Love Hotel, mais toute la prémisse, puis le jardin Meguro. Mm-hmm. J'ai pas transcrit exactement les textos qu'on s'est écrits, mais à peu près. C'est-à-dire que... Oui, mais aussi, ça me... ça m'intéresse, ce côté-là, quand même le plus réaliste possible. C'est pour ça que j'ai vraiment mêlé... la réalité et la fiction, c'est ça qui fait en sorte qu'on croit à toutes sortes de choses qui sont parfois super fantastiques, parfois juste crédibles. Puis ça allait même à une sorte on pourrait dire, de folie pour moi, où, par exemple, à un moment donné, le narrateur, donc, il accote son vélo, il arrive au cimetière à Oyama, Et il accote son vélo sur un poteau. Puis, à la base, la première version, il accotait son vélo sur un arbre. Mais là, je me suis dit, y a-tu des arbres accessibles déjà, là, dans le cimetière? Parce que, tu sais, t'as les tombes, puis là, t'as des arbres plus loin. Puis là, j'étais allé sur Google Maps, puis là, Google Street View. Puis là, j'ai regardé l'entrée du cimetière. Puis là, en effet, il n'y avait pas d'arbres accessibles. Tu sais, il aurait fallu que le personnage aille puis à côté son vélo plus loin. Puis il ne l'aurait pas à côté sur une pierre tombale. Ça se fait pas. Mais là, il y avait comme un vieux poteau que je voyais sur Google Maps. Puis là, ils veulent l'accoter sur le poteau. Et donc, tu sais, la couleur des briques des stations de métro, j'allais vérifier. C'était quoi déjà la couleur des briques? Mais ça, je suis devenu vraiment obsédé par les petits détails comme ça. Les commerces, les galeries qu'ils fréquentent, ils sont où exactement? Qu'est-ce qu'il y a autour? Évidemment, j'ai beaucoup passé de temps à Tokyo, mais les trajets à vélo, je les refaisais sur Google Maps, Google Street View, qu'est-ce qui se passe? J'avais encore une fois beaucoup de souvenirs, mais je suis allé chercher ces petits détails-là qui sont complètement invisibles pour un lecteur que j'accote mon vélo sur un poteau ou sur un arbre, ça fait zéro différence. Mais pour moi, ça faisait une différence. Et je pense que si on ajoute tous ces petits détails-là,
mm-hmm. Mm-hmm.
Ben, ça fait en sorte que peut-être on y croit. Et donc, la réception du livre a été dans une sorte de confusion qui m'a vraiment plu, dans la mesure où cette question-là de « est-ce que tu parles japonais » est souvent revenue, mais comme « alors tu parles japonais ».
Ah. Ben oui. Oui. Oui, comme ce que je viens de te dire.
Oui, c'est ça. Et donc, ça ne peut pas me faire plus plaisir.
Mais c'est drôle parce que ça revient aussi à ce que je te disais plus tôt sur tes personnages dont je disais qu'ils ont un point de vue limité. Tu disais, c'est des détails qui ne sont pas perceptibles, mais tu écris beaucoup, tu travailles beaucoup des phrases nominales, tu travailles beaucoup des flux de conscience comme ça. Puis c'est... en contrepoint, le désir des personnages qui les tire vers l'avant. Puis je pense que dans Le fantôme de Suzuko, c'est très, très fort. Mais donc, je comprends que c'est un travail aussi sur le réalisme des observations.
Oui, complètement. Puis c'est un livre en deux parties où la première partie est au présent, mais on se retrouve comme dans la deuxième partie de l'histoire, donc dans le passé. Plutôt on se retrouve dans le futur.
Mm-hmm.
Mais c'est au présent. Puis évidemment, c'est au présent... je pense que si tu es à vélo puis tu traverses Tokyo, tu te dis pas « Ah, je me sens bien, je vois ci, je vois ça ». Tu es imprégné des choses, tu es imprégné de ta sueur, tu es imprégné de la température. Tu dis pas « J'ai froid », tu dis « Je sais pas, le froid me traverse ou la pluie a un impact sur moi ». Il y a comme quelque chose comme plus une espèce de... un aspect un peu de entre guillemets, de vidéoclip, là, dans la mesure où c'est des petits flashs d'images qui correspondent, je pense, à une perspective au jeu, au présent. Et donc, la première partie, le personnage, il ne sait pas ce qui l'attend. Il fait juste, il rentre à Tokyo, puis là, qu'est-ce qui lui arrive là, minute après minute? Et comme tous les autres personnages connaissent le passé de Suzuko, mais il n'y a pas besoin d'en parler avec eux. Il n'y a pas besoin d'expliquer « Ah, voici, ah, c'est vrai, Suzuko, il est arrivé telle chose. » Non, tous les personnages savent ce qui est arrivé à Suzuko. Et donc, c'est pour ça que le lecteur, lui, est tenu dans une sorte d'ignorance, mais parce que ce n'est pas explicité, parce que les personnages n'ont pas besoin d'expliciter cette chose-là. Dans la deuxième partie, là, on pourrait dire que c'est plus écrit, comme c'est au passé. Et là, il y a vraiment une sélection de « qu'est-ce que je dis, qu'est-ce que je dis pas ?» et comment raconter l'histoire de Suzuko, mais là, du point de vue de l'écrivain, puis pas du point de vue de la personne qui vit les événements minute après minute.
Ouais. Est-ce que ça a été compliqué d'obtenir la permission pour raconter cette histoire-là, ou non, ça a été facile avec tout le monde?
J'ai demandé la permission à tous les personnages, non, à toutes les personnes. Tout le monde m'a dit oui, elle était même assez content, flatté de faire partie de ce livre-là. Parce que je pense que les gens, ça les excite un peu de se dire il va avoir mon nom dans ce livre-là. Après, évidemment, c'est pas leur vie en particulier, c'est des noms. Et pour moi, c'était important de les ancrer sur des personnes que j'avais rencontrées. Ça m'aidait dans l'écriture. Mm-hmm. Puis s'il avait dit non, je veux pas que tu utilises mon nom, j'aurais changé le nom, puis ça aurait été ça. Ouais. Et à la fois, Suzuko, elle, je voulais pas vraiment C'était clair que j'allais changer son nom. Mm-hmm. Kana aussi, c'était clair que j'allais changer son nom. Mais ce sont des vraies personnes. Et Kana, elle a lu le livre au Japon. Puis Ayumi, Pavle Jovovic.
Tout le monde a bien réagi. Ben,
c'est assez drôle parce que, oui, ben, ils ont bien réagi. Après, ça vient aussi avec un étonnement. La première chose que Ayumi m'a dit, puis c'est un peu comme des potins, mais la première chose que Ayumi m'a dit, c'est... tu sais, je l'ouvre le livre, puis le personnage, il arrive chez Ayumi. Puis là, elle m'a dit, ah, ben je savais pas que le livre s'ouvrait avec moi. Tu sais, je pensais que j'étais juste comme... à quelque part, là, dans le livre. Donc, ça a été pour elle comme un étonnement de dire « Ah, OK. »
Je comprends.
Elle arrive chez... arrive chez moi. Puis après, aussi, ce qui m'a vraiment le plus plu ou ce que j'ai trouvé le plus drôle, c'est Pavle Jovovic. Il a beaucoup commenté mes posts sur Facebook. Et donc là, c'est vraiment comme...
La fiction
qui se mêle complètement avec la réalité. Puis Ayumi aussi, parfois, like mes affaires. Et donc, c'est assez drôle. Mais ça, je trouve ça drôle. Je trouve ça super. Puis ça accentue aussi cet effet de réalisme, malgré le fait que ça soit un livre fantastique.
Mm-hmm.
Et je pense que c'est une des raisons pour lesquelles les gens étaient un peu si parfois... Ben, je dis confus, mais au fond, accordait beaucoup plus de crédit que moi-même j'accorde à certaines scènes, et que des personnes, des amis ou des amis d'amis, qui pour eux, comme pour toi, ben, c'est sûr, Vincent, il habite au Japon, il parle japonais.
Tu dis, ah, c'est un livre fantastique, il y a des choses qui sont évidentes pour moi, mais en même temps, c'est une des choses que j'aime dans le livre qui fait qu'on veut croire que tout est vrai, c'est qu'il n'y a pas de jugement qu'il y aurait des personnages du côté de la folie ou du... Mm. Il n'y a pas... Puis on est dans... Bon, ça, c'est peut-être mon côté... le côté occidental qui regarde le Japon puis qui comprend rien puis qui est un peu impressionné, mais il y a aussi le fait d'être devant une autre culture qui perçoit les choses, qui structure les croyances différemment, donc qui le vivant, les êtres, qu'est-ce qu'il y a une âme, qu'est-ce qu'il y a pas d'âme, c'est tout ça a l'air très différent. Donc pour un lecteur lectrice occidental, je pense qu'il y a aussi cet effet là de distance quand même. Puis tu travailles sur les histoires de fantômes, donc j'imagine que tu juges pas les gens qui voient des fantômes non plus.
T'sais. Non, absolument pas. Mais je pense qu'au Japon, peut-être 8 ou 9 personnes sur 10 à qui je demandais une histoire de fantôme, en avait une à me raconter. Donc, c'est assez commun quand même dans la culture, mais c'est dû justement à la culture au sens large, mais peut-être on en parlera tantôt aussi, mais... d'une émission dans les années... ça a commencé dans les années 50-60. C'est Gegege no Kitaro qui est de Mizuki. Donc Mizuki, l'auteur dont je t'ai parlé. Et lui a remis au goût du jour les histoires de fantômes au Japon, tout le folklore là, lié aux histoires de fantômes. Et chaque enfant japonais est bercé par ces histoires-là de fantômes depuis qu'ils sont très petits. Et donc, ça, c'est souvent revenu dans les discussions autour des fantômes, donc Gegege no Kitaro. Et les fantômes au Japon, ils sont vraiment plus... ils ont des noms, il y en a des milliers... il y a des dictionnaires de yokai qu'on appelle. Donc, c'est très proche de la culture. Puis, c'est dû aussi à l'animisme, le fait qu'il y ait des esprits en toute chose, mm-hmm. pour avoir comparé, puis pour avoir recueilli aussi des histoires de fantômes au Québec.
Mm-hmm.
Les histoires ne sont pas de la même nature.
Ouais.
Les histoires ne sont pas aussi abondantes au Québec. C'est pas qu'elles sont moins bonnes ou meilleures. Elles sont juste culturellement déterminées autrement. Et c'est ça, je pense que ça a été, à mon grand étonnement, la manière dont j'ai pu accéder à des pans culturels japonais auxquels j'aurais jamais eu accès si je m'étais pas intéressé à la question des fantômes. Parce que la question des fantômes, finalement, c'est la question de l'intimité. Les Japonais sont pas reconnus pour être très chaleureux. Pourtant, moi, c'est vraiment pas l'expérience que j'ai eue. Et je pense que c'est grâce aux histoires de fantômes que j'ai recueillies, c'est-à-dire des personnes que je connais pas qui me parlent du suicide de leur meilleur ami, première conversation. Pourquoi? Parce qu'ils me racontent une histoire de fantôme. Et donc, c'est ça que je trouve comme merveilleux avec ces histoires-là, c'est à quel point ça donne accès à des choses qui existent dans la société mais qui ne sont pas exprimées. Puis c'est comme si les histoires de fantômes permettaient d'exprimer ces choses-là. Et c'est pas la question de ce que les fantômes existent ou existent pas. Comme ouais, tu m'en fous, tu sais. C'est-à-dire que les gens voient des fantômes, ça, c'est un fait. Mm-hmm. Après, est-ce qu'il y en a dans le monde? J'en sais rien. Mm-hmm. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est les récits des gens. Et à force d'en recueillir, c'est vraiment des récits qui sont très particuliers, puis très, à mon sens, très intéressant, très parlant, très vrai, mais au sens fort. Là,
corporel, tu veux dire. Oui, parce que j'aimerais savoir exactement comment ça s'est passé, la cueillette d'histoire de fantômes, mais avant, j'avais une question sur les animaux, parce que tu parlais du rapport différent aux objets puis aux fantômes au Japon. Puis il y a quand même, dans le fantôme de Suzuko, donc les animaux, particulièrement les animaux morts, là, étant donné que le personnage de Suzuko, elle travaille comme taxidermiste. En fait, elle est héritière là, du savoir d'un père qui est taxidermiste. Puis les animaux sont importants, mais c'est présent aussi dans le livre d'avant, donc dans la chair de Clémentine. Gustave attire des animaux qui viennent mourir auprès de lui. Puis je me demandais d'où ça venait, ces animaux-là, avant que tu me parles pas des vrais fantômes, là, mais tu sais, ils se situent où par rapport aux fantômes dont tu recueillais les histoires?
Bien, traditionnellement, au Japon, les esprits vont... hanter certains types d'animaux, donc les chats, les tanuki, qui sont une sorte de blaireau, et les renards. Et le renard, c'est une figure vraiment très importante là, au Japon, et donc souvent hanté par des esprits. Mais le renard, c'est une figure protectrice. On les retrouve devant donc les torii. Les torii, ce sont les portes rouges qu'on voit dans l'imaginaire japonais qui séparent le sacré du non-sacré. Là, pour rentrer dans un sanctuaire shinto, on passe en dessous de cette porte-là qui s'appelle un torii. Et de chaque côté de la porte, il y a des renards. Et donc, le renard a comme un statut assez de fantôme. Ben, pas de fantôme, mais comme étant possédé, comme pouvant être possédé par un fantôme, par un esprit protecteur des sanctuaires, entre autres. Et les chats sans queue, par exemple, à Tokyo, ce qui est vraiment particulier, c'est que, disons, la plupart des chats que j'ai vus là, à Tokyo, mais entre autres, on se mettait à Aoyama, puis ça, le narrateur raconte cette histoire-là dans le livre. La plupart des chats, en tout cas dans le cimetière, c'est des chats sans queue. Et moi, je suis allé donc me promener au cimetière à Aoyama dans cette espèce de quête naïve de « OK, je vais chercher des fantômes. » Donc, on va aller faire un tour au cimetière. Et j'avais lu chez Lafcadio Hearn que, traditionnellement, ben on coupait la queue des chats. Pourquoi? Parce que c'est par la queue qu'ils se font prendre par les esprits.
Ah ouais.
Donc, pour pas qu'ils se fassent prendre par les esprits, on leur coupe la queue. Mais là, je voyais dans le cimetière juste des chats sans queue. En 2018, je demande à Ayumi, est-ce que ça se peut qu'on coupe encore la queue des chats aujourd'hui à Tokyo? Ayumi dit, ben non, ce serait de la cruauté animale. Mais sais-tu pourquoi les chats ont pas de queue? Je dis, non, je sais pas. Je dis, ben, sais-tu que les chats, ils ont 9 vies? Je dis, non, je ne sais pas que les chats, ils ont 9 vies, mais s'ils ont 9 vies, ils ont 9 queues qui poussent successivement. Et donc, les chats qui arrivent à leur dernière vie, ben, ils n'ont plus de queues. Et c'est la raison pour laquelle ils se tiennent dans les cimetières. Et elle me raconte ça. Je ne lui demande pas une histoire de fantôme, mais elle fait juste me dire, ben, c'est un fait, c'est ça. Tu sais, les chats qui n'ont pas de queues, ils arrivent à leur dernière vie, puis là, c'est pour ça qu'ils se tiennent dans le cimetière, pour apprivoiser la mort. Puis après, elle me dit, ça, c'est pas dans le livre, est-ce que tu as vu des chats à deux queues? Je dis, non, j'ai pas vu des chats à deux queues. C'est Nekomata. Et elle me dit, eux aussi, ils se tiennent dans le cimetière et ils sont réputés pour déterrer les morts et les faire ressusciter. Et ça, ça a été les deux premières histoires de fantômes que j'ai recueillies à Tokyo. Et après, tu sais, ça a défilé.
Je ne sais pas si on t'en a parlé, mais je pense que la raison pour laquelle je pensais aussi que tu parlais japonais, bon, c'est aussi parce que tu as recueilli des histoires de fantômes. Puis là, je te poserai la question après, mais je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'exotisme. Tu sais, le personnage est très... La relation est très incarnée, le rapport à la ville est très incarné. On n'a pas l'impression d'un étranger qui regarde ça de loin puis qui fabule complètement. Le personnage est immergé. C'est ça, il y a comme une connaissance, en fait, là, de tout ça.
Bien, pour moi, c'était vraiment super important que ce soit pas... C'est pas un livre de voyage au Japon, là.
Mm-hmm.
Le personnage, Vincent, bien, à la base, c'était un Japonais là, dans le récit, mais je pense que c'était plus simple. Bon, en tout cas, c'était mieux quand même qu'il y ait une genre d'extériorité, je pense, mais qu'il soit... c'est pas un touriste. Ouais. Il rentre à Tokyo. Le livre s'ouvre et il rentre à Tokyo. Il a habité là pendant des années.
Ouais.
Il rentre à Tokyo. Et il a un appartement là, il a ses amis là, sa vie est là. Il y a une scène à Montréal, puis il n'a pas l'air vraiment heureux d'être à Montréal.
Ça comme, sent pas bon. Sent...
Non, c'est ça. Puis en effet, quand je suis rentré de Tokyo, c'était le printemps, là, les déchets qui... Dans les bancs de neige là, qui dégèlent. Puis j'étais avec une autre artiste japonaise qui était en résidence à Montréal et j'avais honte. J'avais honte, je me disais, aïe, elle arrive au mois d'avril, la ville est dégoûtante. Puis elle a quitté Tokyo, une ville où tout est comme, je sais pas, là, parfait, scintillant, tu peux manger par terre. Pour moi, c'était vraiment très important, en tout cas, de travailler là-dessus. Ça, quand tu connais bien un endroit, t'as pas besoin de flasher toutes tes connaissances. T'sais. Je pense que il connaît Tokyo, il ses amis là. Pourquoi est-ce qu'il...
Il fera un guide de voyage.
Ouais, ben, ah, ben c'est absolument. En tout cas, c'était absolument pas ça le but. Et je pense que ça aussi, ça fait partie des effets ben, de réel dans la mesure où je pense qu'en effet, quand tu connais bien une place. T'as pas besoin d'en parler tant que ça. Faut juste que tu montres que tu l'habites.
Tu parles pas japonais, donc on a établi ça. Comment est-ce que tu recueillais les histoires? Est-ce que tu les enregistrais? Est-ce que ça se passait dans la galerie? Est-ce que t'avais mis des affiches dans la ville? Est-ce que c'était sur Facebook? Comment t'as fait ça là-bas? Puis comment t'as fait ça ici, avec vraiment concrètement?
Oui. Quand je suis arrivé à Tokyo, franchement, je savais pas du tout comment faire. Je savais pas vraiment que j'allais ramasser des histoires. C'était pas vraiment mon projet. Mon projet, c'était faire de la recherche sur les fantômes au Japon, mais c'était vraiment pas clair. T'sais, je savais pas comment j'allais procéder. Et donc, à la galerie, il y avait donc 4 personnes là, qui travaillaient. On était 10 artistes étrangers à être là. C'était comme un building avec des appartements puis une galerie au rez-de-chaussée. Et il y avait 4 personnes donc qui travaillaient pour les artistes, comme à temps plein. Donc, c'était comme extraordinaire là, comme contexte. Tout était possible là-bas. Et donc, la première semaine où tout le monde est arrivé, on a fait une présentation dans la galerie sur nos projets. Puis moi, j'ai présenté mon projet sur ma quête liée aux histoires de fantômes, aux yokai au Japon. Et disant que, franchement, je ne savais pas du tout comment j'allais procéder. Et après cette présentation-là, c'est devant la collectivité, mais d'autres artistes, mais aussi des résidents locaux, quelques personnes sont restées, sont venues me parler, m'ont dit « Hey, mais j'en ai une histoire de fantôme à te raconter. » Donc là, j'ai commencé à prendre des rendez-vous avec les gens. Là, on allait manger des ramen, prendre un verre, ils me racontaient leur histoire. Je sors mon téléphone, je l'enregistre. Et ensuite, j'allais dans... Sérieux, je sais pas, 5-7 vernissages par semaine. Presque à tous les soirs, j'allais dans des vernissages. Et là, ben, t'es un étranger, les gens viennent te parler. Qu'est-ce que tu fais à Tokyo? Je dis, ben, j'essaie de ramasser des histoires de fantômes. Est-ce que t'as une histoire à me raconter? Puis c'est comme, ah non, moi j'en ai pas. Puis là, 2 minutes plus tard, on venait me taper sur l'épaule. Ah, j'en ai une finalement. OK, est-ce que je peux t'enregistrer? Je sors mon téléphone. Puis là, j'enregistre l'histoire. Donc pendant les 3 mois, j'ai enregistré une 40aine d'histoires de fantômes là-bas, surtout en anglais, mais aussi en français ou en japonais. Puis j'avais comme une traductrice là-bas auquel je pouvais avoir accès. qui était une des personnes là, de la galerie. Et donc, ça a été surtout en anglais, mais j'ai rencontré une anthropologue là-bas, super comme intéressante, géniale. Elle m'a beaucoup aidé aussi dans mes recherches. Et elle était japonaise, mais elle a fait son doc à Paris, en anthropo, donc elle parlait bien français. M'a raconté certaines histoires, mais aussi elle m'a fait rencontrer d'autres francophiles, parce que Tokyo, c'est 38 millions de personnes. Donc, certainement, il y a 1 million de personnes qui parlent français là, à Tokyo.
Tu as utilisé... Il me semble que tu m'avais dit que tu as utilisé certains enregistrements, que tu en as diffusé une partie une fois que tu étais là-bas. Je ne sais pas si c'est déjà transformé en texte. Qu'est-ce que tu fais avec ce matériau-là?
Là, il y a 3 des récits que j'ai recueillis à Tokyo qui ont été publiés dans la revue Les Libraires. Il y avait eu un spécial Japon. C'était au printemps dernier, je pense, avant les Jeux olympiques. Donc, j'ai publié 3 histoires-là. Puis, quand j'étais à Tokyo, comme c'était une galerie d'art contemporain, que moi, je viens quand même des arts visuels, on m'a invité à exposer, dans le fond, à la galerie. Et là, j'ai fait une installation avec le son des personnes que j'ai enregistrées. Donc, toutes ces histoires-là, ça dure à peu près 1 heure et quart là, de récit. Et avec des objets aussi trouvés quand j'étais à Tokyo, ça, c'est pas des objets trouvés, mais dont... ça devient un peu ésotérique.
mais c'est correct, on est dans les histoires de fantômes.
Mais en même temps, c'est parce que j'étais tellement comme... immergé là, dans ce monde-là quand j'étais à Tokyo. Et donc, avant de partir de Montréal, on va l'appeler encore Suzuko, m'avait donné 3 pièces de 100 yens. Ça vaut rien, là, ça vaut comme 2 piastres ou 3 piastres. Mais juste comme ça, elle m'a dit, ah, tiens, je te donne 3 pièces de 100 yens et puis tu les dépenseras à Tokyo. Et au cours de mes recherches, ben, tu sais, évidemment, j'ai compris ou j'ai su qu'il y avait des esprits dans les objets, que les objets pouvaient être hantés par des esprits. Ces 3 pièces de 100 yens-là sont devenues un peu comme des porte-bonheur pour moi. Je me suis dit, OK, mais il y a des esprits là, dans ces pièces-là. Je les ai jamais dépensées, je les ai toujours gardées. Et j'ai commencé à ramasser un peu des objets comme ça ou des roches qui m'appelaient dans la ville. Et j'avais aussi un endroit où j'ai mangé des ramen, ils faisaient leur ramen eux-mêmes. C'était l'endroit vraiment préféré là, à Tokyo, à côté de la station Yoyogi, en tout cas, quelque part à Tokyo. Et il y avait des bols à ramen magnifiques. Puis je me suis dit, il me faut absolument ces bols-là pour mon installation. Mais c'était un bol vraiment assez ordinaire, mais c'était le pattern. Je me suis dit, c'est lié à mon expérience, ça me prend ces bols-là. Je ne peux pas prendre n'importe quel bol random. Mm-hmm. Et donc là, je vais à ce petit ramen shop et là, je leur demande, ah, est-ce que je pourrais comme vous acheter des bols? Puis là, c'est pas possible. Puis là, ils ne parlaient pas très bien anglais. Donc là, je me suis dit, ah, OK, sûrement, je m'y suis mal pris. Je retourne à la résidence. Je fais écrire un long message en japonais qui explique vraiment mon projet, tout ça. Je me dis, OK, je vais y retourner. Puis c'était loin, c'était comme, je sais pas, 1 heure et demie de vélo. Là. Et là, je vais retourner. Je retourne le lendemain avec mon beau message en japonais. Est-ce que je peux acheter un bol? Là, c'est non encore.
Oh non.
Là, je suis comme... Là, à commencer une quête à Tokyo de trouver un bol identique à celui-là. Donc là, je prends les photos du bol. Là, je fais le tour de Tokyo avec ma photo sur mon téléphone. Est-ce que vous avez ce bol-là? Puis là, mais sérieux, je fais genre 50 plages, je passe une semaine. Puis là, c'est vraiment cool parce que là, je découvre plein de spots à Tokyo que j'ai jamais vus. Je rentre dans des buildings là, vraiment qui ont sans bon sens, des magasins de vaisselle, tout ça. Il y a un quartier à Tokyo qui s'appelle Shimbashi. Kapabashi. Kapabashi. Et donc, ça, c'est le quartier de la vaisselle. Et donc, c'est genre grand comme le plateau Mont-Royal, puis c'est juste des magasins de vaisselle.
Wow.
Mais là, je gère dans cet immense quartier avec juste des magasins de vaisselle. Puis là, je cherche. Je trouve pas. Puis je montre ma photo. Je trouve pas. À un moment, je suis un peu comme découragé. Je vais dans le plus ancien magasin de vaisselle de Tokyo, comme un truc fameux, tout ça. C'est juste un étal avec des bols empilés à n'en plus finir. Puis là, ben, je trouve pas le bol que je cherche. Mais là, je montre la photo à la personne. Puis là, ça donne que son fils a étudié comme au Canada, ou un truc de même. Puis là, il me dit « Ah non, on l'a pas, ce bol-là, mais je peux te le commander. » Et là, il me sort une espèce de bible de tous les bols possibles et inimaginables. Et là, ben, je repars le bol que je cherche. Puis je dis « OK, je vais en prendre deux. » Puis là, ben, une semaine plus tard, c'était arrivé, puis je vais le chercher. Et là, ces bols-là, donc, je les ai rapportés donc, à Montréal, j'espère. Évidemment. Il y a un de ces bols-là qui s'est malheureusement comme cassé. Mais je pense qu'il s'est suicidé parce que je l'ai enlevé de son environnement comme natal. Mais au Japon, il y a cette tradition-là de réparer les bols avec de la dorure. Mm-hmm. Bon, j'avais pas de dorure, mais j'ai quand même réparé mon bol, me disant « OK, mais ça fait partie de son histoire. » Il est arrivé un drame, mais maintenant, il est réparé.
C'est ça, toi aussi, t'as tes histoires de fantômes, là, maintenant, tu sais.
C'est sûr que en arrivant à Tokyo, je pensais que j'avais pas d'histoire de fantômes, mais à force d'en entendre, oui, j'en ai...
Puis ça t'a pas rendu hyper vigilant? T'es pas... Le soir, tu te couches, puis t'es pas à l'affût de chaque petit bruit, là.
Ben, au fond, les fantômes, ils sont pas effrayants. Mm. Ils sont consolateurs, ils sont bienveillants. C'est les personnes que t'aimes qui reviennent. C'est pas les personnes que t'haïs. En tout cas, j'ai pas de récit. J'ai eu, tu sais, parmi là, parce que là, à la fois au Québec puis au Japon, j'ai recueilli presque... Mais au Québec, environ 300 histoires. Mm-hmm. Puis au Japon, une quarantaine. J'ai une ou deux histoires un petit peu effrayantes. Mais la grande majorité, non, c'est le rachat des morts... ou des vivants qui ont l'occasion de dire un dernier au revoir à quelqu'un qu'ils ont aimé. Ouais. C'est vraiment... c'est assez sweet, là, quand même. Ou en tout cas, il y a de tout, là. Il y a plein d'affaires. Il y a des choses un peu comme plus dramatiques. Mais il y a beaucoup de choses dramatiques, mais elles ne sont pas effrayantes.
C'est pas des récits d'épouvante, là.
Non, c'est ça. Peut-être les récits folkloriques, eux, sont plus effrayants, même au Québec. Mais c'est pas ça qui m'a intéressé. Ce qui m'intéresse, c'est les récits personnels. Et ça arrive assez souvent. Finalement, ben, dans mon expérience, c'est peut-être... 3 personnes sur 10 là, au Québec à qui j'ai demandé, qui m'ont raconté une histoire de fantôme. Puis eux-mêmes, il faut qu'ils réfléchissent un peu. « Ah ouais, c'est vrai, mais t'es arrivé telle chose une fois. » Puis là, ils racontent cette chose-là qui leur est arrivée juste une fois dans toute leur vie. Et donc cette chose-là, quand même un peu marquante, des fois qui provient de l'enfance ou souvent dans des périodes difficiles, des changements, des déménagements, des deuils. Des ruptures amoureuses.
Je t'ai demandé d'apporter un texte. Je me demandais, ça fait partie de quel projet? C'est lié à laquelle de ces cueillettes-là de fantômes? Est-ce que c'est lié à une de ces cueillettes-là? Mets-nous un peu en contexte.
Oui, bien, j'ai apporté quelques petites histoires de fantômes. Peut-être que je vais en lire une ou deux. Des histoires que j'ai recueillies au Québec. Mais j'en ai recueilli tellement, j'ai eu quand même de la difficulté à juste savoir lesquelles... Ben, laquelle choisir ou lesquelles choisir. Je pense que l'histoire de fantômes aussi, il fonctionne par la répétition. Puis c'est comme ça qu'on conçoit à quel point ce sont des histoires comme culturelles. Mm. Parce que si j'avais juste entendu une histoire au Japon, j'aurais pu rien en dire. Avec 40, je peux quand même en dire un petit peu plus. Pas tant que ça, mais je peux en dire plus. Puis au Québec, ben, c'est un peu la même chose. Si tu as 2-3 histoires, c'est un peu hétéroclite. Ouais. Mais plus t'en as, plus il y a des formes de répétition qui, moi, m'intéressent. C'est sur quoi je travaille aussi pour ce projet-là. Donc ça, c'est un projet pour 2023. Là, à l'automne de 2023, ça devrait paraître.
Okay.
C'est un recueil d'histoires de fantômes que j'ai recueilli sur le territoire là, au Québec. Une espèce de projet, je pense, hybride. C'est une sorte d'ethnographie que j'ai fait. Mais je pense qu'il y a de la littérature dans ce type de récit-là. Donc, c'est un récit de elle. Tous les noms, je les ai caviardés là, pour garder l'anonymat de toutes ces personnes là, qui ont
accepté.
Accepté, oui, c'est ça. C'est comme un peu dans le contrat. Et donc, un récit de elle, recueilli à Montréal le 4 mars 2021. Je suis arrivé toute seule à Montréal depuis l'Algérie à l'âge de 20 ans pour faire mon bac en biologie. J'étais en ville depuis 3 mois seulement quand, une nuit, j'ai vu mon grand-père debout au pied de mon lit. Il portait une djellaba blanche. Il me regardait avec beaucoup de tendresse et de bienveillance. Il me disait que tout allait bien se passer à Montréal, qu'il ne fallait pas que je m'inquiète, qu'il serait toujours là pour moi en cas de besoin. Le lendemain, j'ai parlé à ma mère au téléphone. Je lui ai raconté ma vision et je lui ai demandé des nouvelles de grand-papa. Il allait bien. Toutes les semaines, pendant un an, j'ai appelé ma mère. Je lui demandais toujours des nouvelles du reste de la famille. Tout le monde allait bien. Bref, un an a passé. Puis ma mère est venue me visiter. C'était à l'été 2002. En arrivant chez moi, elle m'a demandé de m'asseoir. Puis elle m'a dit que son père était mort 3 jours après que j'ai quitté l'Algérie, qu'elle n'avait pas voulu m'annoncer la nouvelle à ce moment-là pour ne pas perturber mon année académique. Je suis une scientifique. J'ai un bac, une maîtrise, un doc et un post-doc en biologie. C'est fou que j'ai vu un fantôme. Moi-même, je ne suis pas sûr d'y croire. En même temps, je peux pas dire que ça m'est pas arrivé.
Ah, c'est bon!
C'est comme ça, genre 300 fois!
À partir d'ici, il y a eu un pépin technique, puis j'ai perdu le son de la fin de notre conversation, mais ça durait pas très longtemps encore. Je prenais surtout le temps de dire merci à Vincent d'avoir accepté de venir me rencontrer et d'avoir apporté une histoire de fantôme. Donc, je le lui redis ici. Merci beaucoup, Vincent, de nous avoir partagé tes histoires de fantômes puis de nous avoir donné accès à ton processus d'écriture.
Pour trouver toutes les informations sur le projet Terrain d'écriture et pour trouver les autres épisodes, rendez-vous sur la page Internet du CRILC, crilcq.org. Terrain d'écriture est lié à mon projet de postdoctorat qui est financé par le Conseil de recherche en sciences humaines du Canada. La série d'entretiens est rendue possible grâce à 2 organismes, grâce au Centre de recherche interuniversitaire sur la littérature et la culture québécoise, le CRILC, reconnu et financé par le FRQSC depuis 2003, et grâce au partenariat Littérature québécoise mobile, LQM, financé par le CRSH depuis 2019. La magnifique image du visuel est de l'artiste Camille Lamy. Un grand merci à Annie Tanguay et à Benoît Bordelot pour l'aide à la coordination du projet. L'enregistrement des entretiens est assuré par Ève Lemieux-Cloutier dans les studios de Choc à l'UQAM. Je m'appelle Charlotte Biron et je vous dis à très bientôt.